Chers amis, nous allons nous recommander encore une fois à la grâce de Dieu. Ô Dieu, nous savons que sans ton esprit, parlant à nos consciences et à nos cœurs, éclairant notre intelligence, meublant notre mémoire, tout ce que nous allons faire maintenant serait vain. Alors notre attente est en toi. Nos yeux sont sur toi. Et nous te demandons qu'individuellement, nous puissions éprouver ta présence en chacun de nous pour la seule gloire de Jésus-Christ et notre témoignage auprès des âmes dans ce monde. Gloire à ton nom, ô Jésus, qui nous exauce toujours. Amen.
Amen.
Eh bien, mes amis, j'espère que votre temps n'a pas été trop pénible dans vos chambres et que, comme beaucoup l'éprouvent, même s'ils n'avaient pas l'habitude de ce recueillement personnel, ils nous disent « on aimerait que ce soit plus long ». Je ne sais pas ce que vous avez éprouvé vous-même, mais tout est aussi affaire d'habitude. Ou bien on a des bonnes habitudes, ou bien on en a des mauvaises. Et une mauvaise habitude, c'est de ne jamais prendre de temps pour se recueillir. Mais une fois que vous l'avez pris, vous devient en quelque sorte indispensable. Eh bien, je veux croire que vous n'avez pas été trop malheureux. Et puis, quand vous avez rejoint vos ateliers, j'ai été émerveillé de voir comme vous aviez trouvé vous-même le chemin. Hein? C'est bien. Alors, maintenant vous connaissez les lieux, et pendant que vous étiez là dans le partage, moi j'ai fait un petit partage en plein air avec l'invisible, et je suis montée jusque là sur la colline pour vous dire que ça vous ferait beaucoup de bien de faire cette petite promenade entre après le dîner, avant 2 heures. Mais prenez quand même peut-être votre manteau, il y a un peu de vent, mais c'est magnifique, parce qu'alors on voit jusqu'à Montréal, hein, depuis la colline, et vous pouvez passer le passage interdit, là, il est mis interdit. Seulement, vous arrivez au cimetière. Hein, mais c'est aussi touchant de voir toutes ces tombes de ces sœurs, de la communauté, qui, dont le corps repose là. Et c'est toujours une promenade que j'aime faire, en essayant de prendre un bol d'air, hein, ce qui est nécessaire aussi. Alors, ce samedi matin, hein, du 7 octobre, nous entrons dans la deuxième session des faits divins et de nos sentiments, avec ce deuxième volet caché avec le Christ en Dieu. Et je dirais que si en février notre étude sur le sujet était mort et ressuscité avec Christ, nous avons été alors conduits à considérer l'épître de Paul aux Romains pour bien établir ce sujet. Alors, pour traiter notre thème d'aujourd'hui, notre second volet, comme vous l'avez fait, nous avons commencé à nous plonger dans l'épître aux Colossiens, qui est, comme on l'appelle, une des 3 épîtres de la captivité. Il en a écrit d'autres, des épîtres personnelles depuis sa captivité, l'apôtre Paul. Mais quand il a écrit aux Colossiens, il était prisonnier à Rome. Il a écrit une autre épître à une église. Pendant qu'il était en captivité, c'est l'épître aux Philippiens. Ce lieu où, pour la première fois, l'Europe a entendu l'Évangile. C'est à Philippe, en Macédoine, que Paul s'était rendu. Il a eu beaucoup de souffrances, il était là avec Silas, et c'est là que l'Évangile a commencé son chemin en Europe. Alors, de sa prison romaine, il écrivait l'épître aux Philippiens. Puis il a écrit aussi une autre épître à une église où il avait été dans cette ville pendant environ 3 années. C'était l'épître aux Éphésiens. Et pendant qu'il évangélisait durant ces années-là aux Éphésiens, il avait quitté en quelque sorte la synagogue parce qu'il y avait toujours du tumulte. Au bout de 3 mois, il avait loué une école. Vous voyez qu'on loue aussi des écoles de nos jours. Bien, lui, il avait loué l'école de Tyrannus, nous lisons ça dans les Actes, et il a prêché tous les jours l'évangile. De sorte qu'il est dit dans les Actes, au chapitre 19, que tous ceux qui étaient en Asie ont eu l'occasion d'entendre l'évangile, la prédication de la parole. Et beaucoup de ceux qui voyageaient ont dû rencontrer l'apôtre Paul à Éphèse dans ces réunions-là et se sont convertis. Et il y avait des gens de Colosse aussi. Mais cette épître qu'il écrit aux Colossiens, ce n'est pas une épître qu'il écrit à une église qu'il a fondée lui-même. Comme vous l'aurez remarqué, on peut penser que c'est un compagnon de Paul qui s'appelait Épaphras, qui a fait entendre le message de l'évangile dans la ville de Colosse. Et une église y a été fondée. Mais ce n'est pas parce que Paul n'a pas fondé cette église, ou n'est pas allé directement à Colosse, qu'il n'a pas à cœur d'écrire une lettre aux Colossiens. Et c'est cette lettre qu'il écrit de Rome aux environs de l'an 60 que vous avez commencer d'étudier, et c'est dans cette lettre justement que nous allons trouver ce secret d'une vie cachée avec le Christ en Dieu. Et au lieu d'élaborer simplement sur un texte, nous avons pensé qu'il était beaucoup plus prudent et qu'il serait plus intéressant pour vous de lire toute cette épître aux Colossiens. Alors, vous l'avez lu. Comment se sont passés vos ateliers? Vous avez aimé cela? Vous avez eu la liberté un peu de partager? Peut-être qu'on passera justement à toutes ces questions au fur et à mesure, et que si vous avez des réflexions, on fera ça à la fin, n'est-ce pas, à cause de l'enregistrement. Alors nous allons maintenant relire cette épître. Parce que vous savez, vous allez dire, mais on la connaît maintenant. Plus je la lis, eh bien, plus je trouve des merveilles dans cette épître. Et je le disais déjà au mois de février, l'épître de Paul aux Romains, vous me dites, mais on la connaît, c'est la première épître qui vient après les Actes. Hein? Oui. Alors, les Romains, on connaît cette épître. Vous savez combien de fois Luther, qui était un moine catholique, mais qui n'avait pas la paix, qui cherchait dans son couvent vraiment le salut, parce qu'on peut être moine sans avoir le salut. Eh bien, comme on peut être aussi pasteur sans avoir le salut, comprenez-le bien. Alors, voilà, il a découvert la Bible dans son couvent, et puis il s'est mis à lire cet épître aux Romains, qui lui a donné la réponse à ses problèmes, à ses questions. Et vous savez combien de fois, jusqu'à la fin de sa vie, Paul lisait l'Épître aux Romains? Non, pardon, là, ça dérange là-dedans. Luther, excusez-moi, lisait l'Épître aux Romains? Une fois par semaine. Alors, ça devait être entré en lui. Alors il a pu apporter un message libérateur qu'on a appelé le message de la réforme. Mais qu'est-ce qui reste de la réforme? De ces catholiques qui protestaient au nom de la vérité, qui demandaient à Rome de revenir à la simplicité des apôtres. On les a appelés protestants, mais qu'est-ce que c'était les protestants? C'était des catholiques qui avait été réveillé par les Écritures, qui était écœuré de voir ce que la religion apportait. Au lieu d'apporter la lumière, la libération, on apportait la servitude et aussi la désillusion et la superstition. Comprenez-vous? Alors il y a eu des protestataires, dont Luther, puis Calvin et d'autres encore, mais qui étaient tous d'origine catholique, qui ne voulaient pas faire une autre église, mais qui demandaient la réforme de l'Église. Qu'on revienne aux bases. C'est pour ça que nous avions pris ce sujet, quand il y a un réveil, on replace la croix au centre, hein, la maison sur son fondement. Est-ce qu'il y a plusieurs fondements pour l'Église? Il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Les apôtres sont les premières pierres sur la pierre angulaire, et chaque élu, chaque personne qui a accepté Jésus, qui a cru, est une pierre dans cet édifice en construction. Eh bien, donc, nous allons relire, même si vous l'avez lu ce matin dans vos chambres, nous allons relire cela ensemble, même si vous en avez parlé, en demandant au Seigneur de nous instruire lui-même et de nous dire ce qu'il veut nous dire. Paul, alors vous savez qui est Paul, hein? Est-ce qu'il a toujours été ce Paul apôtre? Il était quoi avant? Saul de Tarse, un opposé à ce qu'on appelait la voie du Nazaréen. Et il pensait que ses disciples de Christ étaient des sectaires et qu'ils menaçaient la religion de qui? De ses pères. Il avait été enseigné dans la religion de ses pères. Alors, n'est-ce pas, ne mettez pas toujours votre confiance dans la religion de vos pères. Je ne vous dis pas que dans la religion de vos pères, il n'y avait pas des choses justes. Mais il faut absolument être de ceux qui sondent les Écritures pour connaître la vérité. Saul de Tarse était sûr de servir Dieu en persécutant les chrétiens. Et puis, vous connaissez comment Dieu l'a atteint. Alors, il y a espoir pour beaucoup, hein, et pour tous, même pour ceux qui sont opposés maintenant à la vérité, qui vous croient dans l'erreur. Alors, ayez-vous vraiment un témoignage à leur égard. N'ayez pas simplement la réputation d'avoir changé de religion, parce que ça, c'est épouvantable. Si vous n'avez que changé de religion, vous avez changé de mode. Vous avez une autre mode. Attention à cela. Il est question d'un changement de vie. Il est question d'une vie vraiment nouvelle. Et c'est à cela que nous travaillons. Alors, Saul de Tarse s'est converti. Donc, il y a espoir pour les plus opposés au Seigneur Jésus, parce qu'il était opposé au Seigneur Jésus. Mais sur le chemin de Damas, il a eu cette révélation merveilleuse qui a complètement changé sa vie, quand il a entendu « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il ne le connaissait pas. Il nous le dit dans ses lettres qu'il ne connaissait pas Jésus selon la chair. Il n'avait pas été au nombre des disciples qui avaient suivi Jésus, non. Il était trop jeune et il n'était pas là. Et puis, la voix qu'il entend du ciel lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais qu'est-ce qu'il persécutait? Les croyants. Alors qu'est-ce que vous êtes déjà maintenant? Vous êtes des croyants, vous êtes quoi? Le corps de Christ. Vous êtes des autres, si j'ose dire ça, des autres Jésus sur la terre. Vous allez dire que je blasphème, que ça va loin. Non, mes amis. Et c'est à cela que vous allez arriver à comprendre, à saisir ce qu'est réellement votre vie. Vous allez devenir la famille du Père Céleste, qui a un fils unique, mais qui a voulu avoir autour de ce fils unique, pour ce fils unique, des frères. Hein? Qui soient formés à l'image du fils unique. De sorte que vous devez être, nous devons être, le but c'est d'être comme Christ. Comme Christ dans ce monde. Non pas comme on est dans mon groupe, que ce soit un groupe biblique d'un nom ou d'un autre, mais qu'on soit comme le Christ dans ce groupe-là et dans le monde. Et quand le monde verra des gens qui portent le nom de chrétiens ressembler au Christ, eh bien, les âmes pourront se convertir. Mais bien souvent, nous les chrétiens, nous ressemblons tellement peu au Christ, nous ressemblons tellement à ce monde, et nous sommes des fois tellement pires que les gens du monde, parce que il y a des gens qui sont corrects dans le monde encore, hein, qui n'aiment pas Jésus, mais qui sont corrects, plus corrects que certains chrétiens. Comprenez-vous? J'ai raconté, je crois, l'autre jour, qu'en Suisse, au mois de mars, une femme de plus de 60 ans est venue vers moi et me dit, vous savez, je me souviens d'une prédication que vous avez faite il y a 50 ans, où vous disiez que les pires ennemis de l'Église n'étaient pas hors de l'Église, mais étaient dans l'Église. Ce qui empêche que les gens se convertissent, croient, parce qu'ils ont un mauvais témoignage. Puis elle s'en souvient. Elle me dit, je me suis converti à ce moment-là, il y a 50 ans. Moi, je ne le savais pas. N'est-ce pas? Mais elle, je la voyais vraiment vivante et mère d'une famille où on avait élevé les enfants dans la foi. Au moment où elle avait entendu cette prédication, et elle dit, vous aviez prêché sur le chapitre 3 des Philippiens. Parce que je n'ai pas inventé cela, hein. Que les ennemis de l'Église sont à l'intérieur. Paul dit, je vous le dis en pleurant, il y en a parmi vous qui marchent et qui sont des ennemis de la croix du Christ. Et je vous le dis en pleurant. Puis il dit, leur fin, c'est la perdition. Et puis, qu'est-ce qu'il ajoute? Pourquoi c'est la perdition? Parce qu'ils ont fait de leur ventre un dieu, ils se glorifient de ce qui devrait être leur honte, puis la troisième chose qui nous touche, ils n'ont leur pensée qu'aux choses de la terre. Pas de la chair seulement, mais simplement les choses de la terre. Qu'est-ce qui les occupe? C'est la terre. Qui va pourtant les engloutir. Parce que même si on a eu nos pensées qu'aux choses de la terre, on sait bien que la terre, un jour, va s'ouvrir pour nous recouvrir, quant à notre corps. Alors, où est notre cœur? Là où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. On reste dans cette pensée. Mais voilà, ce Saul de Tarse a eu cette vision du Seigneur, je suis Jésus qui persécute. Il a compris qu'en touchant les chrétiens, c'était Jésus lui-même qu'il touchait. Quand on vous touche, quand on vous fait du mal, c'est pas à vous qu'on fait du mal. C'est au Seigneur. Quand c'est vraiment pour un témoignage, alors vous ne devez pas avoir de rancune. Vous devez dire comme Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si vous aviez ce pardon dans vos cœurs, mes amis, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Vous auriez des exaucements de prières merveilleux. Ce qui empêche Dieu d'exaucer nos prières, bien souvent, c'est parce que nous n'avons pas pardonné à quelqu'un. Oh, mais vous dites, mais il avait tort. J'attends qu'il vienne me demander pardon. Faites peut-être le premier pas. Voyez-vous, ce n'est pas que moi j'ai raison qui compte. C'est que lui, mon Seigneur, ait raison de moi. Et qu'il puisse faire avec moi, comme il veut faire aussi avec vous, ce qu'il veut. Parce que vous devez comprendre que vous avez été créé pour faire la volonté de Dieu. Vous avez une raison d'être, une raison de vivre. Et même les épreuves que vous traversez, vous devez le comprendre. Dieu les permet, c'est pas que Dieu veut que vous soyez dans l'épreuve. C'est pas sa volonté ce qui se passe peut-être dans vos circonstances. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance des siens, mais il a un but pour vous, comme il en avait un pour Joseph. Hein. Joseph, vous connaissez cette histoire, vous l'avez entendue à l'école du dimanche, quel que soit votre milieu, c'est de l'histoire sainte, hein. Mais pourquoi a-t-il été vendu par ses frères? Pourquoi, malgré qu'il a résisté à la tentation de la femme de Potiphar, a-t-il été accusé injustement? Pourquoi a-t-il dû faire de la prison alors qu'il était innocent? Pourquoi a-t-il été encore oublié par un des prisonniers auxquels il avait rendu un grand service, qu'il oubliait pendant 2 ans, alors que Joseph lui avait dit à la libération de ce prisonnier du pharaon, il lui avait dit « Souviens-toi de moi, je suis ici injustement ». Et il a dit qu'une fois libéré, le prisonnier l'a oublié. Alors on dit, mais alors, est-ce que Dieu n'est pas juste? Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu est juste, mais qu'est-ce qu'il faisait pour Joseph? Il le préparait à quoi par toutes ces épreuves? À devenir le deuxième après le pharaon. Et vous ne pouvez pas diriger un pays sans avoir été éprouvé, sans avoir été formé. Alors voyez-vous, puissiez-vous comprendre, quelle que soit votre situation, que l'épreuve par laquelle vous passez est une épreuve que Dieu permet, non pas pour vous détruire, et vous ne devez pas sortir de cette retraite détruit, mais vraiment bâti, construit, fortifié, pouvant envisager, oui, ce temps d'épreuve que vous connaissez, que vous traversez, mais en étant assuré, parce que c'est ça l'effet divin, que Dieu veut votre bien, et qu'il travaille à votre bien. Toute chose travaille ou concourt, dit la version que vous avez l'habitude de lire, mais le vrai mot grec c'est toute chose travaille, ça fait mal, c'est le même mot qu'une femme qui est enceinte, qui est dans le travail, dans la douleur, mais ça va déboucher. Normalement, une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, ça débouche sur quoi? Sur une vie, vous comprenez? De sorte qu'après, on oublie les souffrances parce qu'on a la joie d'avoir mis au monde une vie nouvelle. Eh bien, mes amis, c'est cela que nous devons comprendre dans ces moments que nous passons ensemble, que nous devons envisager les épreuves d'une façon toute différente. Dieu est en train de nous façonner, Dieu est en train de nous former, pour que nous puissions justement être prêts à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il y avait des œuvres préparées pour Joseph, mais pour qu'il puisse les accomplir, il fallait d'abord qu'il soit formé. Et nous aussi, pour que nous puissions accomplir certaines œuvres que Dieu a en vue pour nous, car Dieu a en vue pour vous quelque chose de grand, quelque chose qui concernera son royaume, quelque chose qui concernera sa gloire. Parce que si vos pensées n'ont été qu'aux choses de la terre, qu'est-ce que vous aurez devant Dieu à lui dire quand il vous dira « Je t'avais créé, je t'avais appelé à l'existence pour un certain travail, pour une certaine œuvre, pour un certain témoignage. Pourquoi n'as-tu pas répondu ?» Ce serait triste, de se rendre compte qu'on a manqué le but de notre vie. Il y a tellement de gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi ils existent? Bien, vous existez parce que Dieu l'a voulu et qu'il a un plan pour vous. Alors, ce qui compte, c'est que vous puissiez être préparé pour le plan de Dieu. Non pas que vos plans à vous s'accomplissent. Oui, on se propose certaines choses, mais on lui dit, c'est toi qui vas disposer. Et je suis prêt, je suis d'accord avec ce que tu voudras. Même si c'est par la souffrance. Voilà notre Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul, qui a eu la révélation du corps de Christ, que les croyants étaient membres de ce corps et que toucher à un membre, c'était toucher à la tête. Il n'y a qu'une tête, et si on touche à un membre, eh bien on touche à la tête. Alors, il est apôtre de Jésus-Christ, donc il ne l'a pas toujours été. Il l'est par la volonté de Dieu. Vous voyez que c'est cela qui compte. Il l'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Et pourtant, il a été longtemps contre Jésus, le vrai révélateur de Dieu. Mais il croyait connaître Dieu. Il croyait connaître le vrai Dieu, être dans la vraie religion, la religion du vrai Dieu, la religion juive. Alors, il écrit cette lettre. Un apôtre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut comprendre les mots que nous lisons. C'est quelqu'un qui a été choisi, c'est un envoyé. C'est l'envoyé de Jésus-Christ. Il a été par la volonté de Dieu, parce que c'est au moment où lui allait persécuter les chrétiens de Damas, donc il y a quelque chose de tout à fait surprenant qui lui arrive. Et il ajoute, et ça c'est très beau comme humilité chez l'apôtre Paul qui est au soir de sa vie, le frère Timothée. L'histoire du frère Timothée, vous connaissez Timothée? Vous savez qui était Timothée? Est-ce que vous savez un petit peu ses origines? Ben, il était d'un foyer mixte. La mère était juive et puis le père était grec. Vous avez tout cela dans le livre des Actes des Apôtres. C'est pour ça que je vous conseille, non pas seulement de lire une petite portion chaque jour, c'est très bien, vous avez des plans bibliques qui vous donnent des petites portions, mais ce qu'il vous faut, c'est lire la Bible depuis la première page à la dernière page. Non, ça vous est pas lu, la Bible. Et puis si vous dites, oh mais c'est trop volumineux, puis il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais passez par-dessus, n'est-ce pas? Vous comprenez pas, vous allez plus loin. Et puis tout d'un coup, il y a un verset qui va éclairer le passage que vous n'avez pas compris. Puis vous reviendrez en arrière. Je vous dis, tiens, mais j'avais lu quand même ça, j'avais pas compris. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Parce que sans ça, vous n'aurez jamais l'idée de l'unité de l'Écriture. Et puis, vous ne serez jamais réellement bien nourri. Parce qu'un verset, même un mot biblique peut nous nourrir pendant, non pas seulement une heure, mais toute une journée. Et non pas seulement toute une journée, mais toute la vie. Hein. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, est le frère Timothée. Timothée était un jeune homme qui s'est converti dans la ville de Lystre parce que sa mère et sa grand-mère avaient pris soin de lui enseigner les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Elle était juive. Mais elles avaient, ces deux femmes, pris la responsabilité de bien enseigner ce jeune garçon Timothée, qui un jour, peut-être vers 14 ans, a entendu la prédication de Paul qui passait par là. Et qui a même été lapidé dans cette ville. Et il s'est converti au Seigneur, et quelque temps plus tard, quand Paul repassait, il l'a pris avec lui, et il l'a formé. Alors c'est un jeune homme qui a été formé à l'école de Paul. Alors, il se l'associe et il écrit « aux saints et fidèles ». Est-ce qu'il y a des saints ici? Où sont-ils? Je ne vais pas vous dire de vous lever, mais ils sont assis sur des chaises aujourd'hui. Les saints. Mais il y en a aussi au ciel, bien sûr. Mais les saints, ils sont là. Vous êtes les saints vivants. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être mis à part. Être séparé. Séparé de quoi? Du mal et du monde. Mais qui est votre sainteté? Est-ce que c'est vous qui êtes devenu saint, qui êtes arrivé à être saint, à être des saints par vos efforts? Non. C'est le Christ qui est notre sanctification. Il est notre sainteté. Alors, si vous le laissez vivre en vous, hein, ça sera le secret, eh bien, votre sainteté sera quelle sainteté? La sainteté du Seigneur. Comprenez-vous? C'est toujours à cela que nous allons arriver. La sainteté du Seigneur est votre sainteté. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas ce que vous êtes arrivé à faire. C'est la sainteté du Seigneur. Alors, il est écrit au saint. Et fidèle. Les fidèles, qu'est-ce que c'est les fidèles? Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Oui, mais d'où vient-elle la fidélité? Dans les Galates, nous apprenons que c'est un fruit de l'esprit. Hein? Ce n'est pas vous-même qui arrivez par toutes sortes de choses à devenir des fidèles. Hein? La fidélité, c'est un attachement à qui? Au Christ. Et le Saint-Esprit, quelle est son œuvre en nous? C'est de nous rendre attachés au Christ, fidèles au Christ, aux saints et fidèles. Et il les appelle frères. frère. Frère comment? Frère en Adam. Ben, on est tous frères en Adam dans un sens, hein, c'est vrai. Hein. Mais maintenant, on est frères en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Parce qu'on a le même père, hein, sans avec des camarades. Oui, l'idéologie communiste, elle ne fait pas des frères, elle fait des camarades. Une idéologie peut faire des camarades. Des gens du même club. Mais, en Jésus-Christ, il nous révèle le Père. Et nous ayant révélé le Père, eh bien, nous sommes nés du Père, alors nous devenons des frères. Voilà la vraie fraternité chrétienne. Frères en Christ. Alors, qui sont à Colosse, c'est cette ville qui se trouvait à l'est d'Éphèse, à environ 160 à 200 kilomètres de l'est d'Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Est-ce que Paul leur dit que la grâce et la paix vous soient données de ma part? Est-ce que moi je peux donner la grâce et la paix? Non, mais je peux la demander pour vous. Mais si je la demande pour vous, cette grâce et cette paix, comment est-ce que je peux dire une chose pareille? Pour que je puisse souhaiter la grâce à quelqu'un, il faut que je l'ai reçue. Est-ce que vous avez reçu la grâce? Est-ce que vous êtes des graciers? Alors qu'est-ce que ça veut dire? À qui est-ce qu'on offre une grâce? À des condamnés, hein? C'est des condamnés qui espèrent en la grâce, hein? Eh bien, ça veut dire que vous êtes vous-même des graciers. Et puis, vous faites ce vœu que cette grâce soit à tous. Parce qu'on en a besoin tous les jours. Alors, que la grâce et la paix, vous savez, ça doit entrer dans nos cœurs, ça. Si je souhaite la grâce et la paix, avec un visage long comme ça, parce que je veux convertir les gens, hein, puis j'y vais fort, hein. Si ils ne me voient pas du tout gracieux, et non, je parle de grâce, je leur fais la grimace des damnés, hein, si tu comprends pas tout de suite maintenant ce que je te dis au sujet du Seigneur, hein, tu iras rôtir en enfer. Et voilà comment, alors que voulez-vous, vous parler de la grâce en vain gracieux, ça va pas. Et puis, il y a une autre chose, vous vous énervez, vous n'êtes pas du tout paisible, et vous voulez que les gens aient la paix. Il faut, quand on souhaite la paix, il faut d'abord l'avoir en soi. Hein. Il faut avoir la grâce, et puis il faut avoir la paix. Qu'elle vous soit donnée de la part de qui? Qui est la source? Dieu, notre Père. Mais qui nous a fait connaître Dieu, notre Père, Dieu comme Père? C'est Jésus-Christ. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez que de qui parlait Jésus? De son Père. Et il faisait aimer le Père. Et on voyait comment lui aimait le Père. Alors il nous faut passer plus loin. Nous rendons grâce à Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservé dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé là, en réponse à une question, dans ces versets-là? Quelles sont les vertus chrétiennes qui caractérisaient les Colossiens? La foi, l'espérance, oui. Et l'amour, hein? La foi, l'amour et l'espérance, ou la charité. Eh bien, quand il y a vraiment cette foi, cet amour et cette charité, qu'est-ce qui se passe? La foi, elle se manifeste par quoi? Par des œuvres. Hein? Par des œuvres qui parlent. Si vous avez la foi, il doit y avoir des œuvres, parce qu'une foi sans œuvre, dit Jacques, elle est morte. Vous comprenez? Alors, quand il y a vraiment la foi dans quelqu'un, il y a des œuvres. Et quand il y a aussi l'amour, il y a tout un travail qui se fait, et aussi il y a l'espérance. Et quand ces trois choses sont dans une vie, on en parle. Vous voyez, nous, on pense toujours, comment est-ce que je pourrais rendre témoignage? Mais c'est une fausse question. Comment rendre témoignage? Mais si vous avez la foi, si vous avez l'amour, si vous avez l'espérance, vous êtes un témoin. Il y a un témoin. Et alors, si vous lisez l'épître aux Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, qui n'a été que 3 semaines avec les Thessaloniciens pour les enseigner, leur dit qu'on parle de leur foi dans le monde entier, parce qu'elle avait produit des œuvres. On parle de leur amour pour les frères, pour les croyants. Et puis, c'est les païens qui racontent leur conversion, qui disent, ces Corinthiens, ils se sont détournés de leurs idoles passées pour suivre le Dieu vivant et vrai. Alors, comprenez-le bien. On est informé de votre foi. Ce n'est pas les Colossiens qui ont informé l'apôtre Paul. Mais des gens qui passent, voient le travail et en parlent. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand il y a un témoignage, le monde en est informé. On ne fait pas, on ne viole pas les âmes. On sait qu'il y a la charité pour tous les saints, et il y a aussi l'espérance, parce que dans un témoignage, il y a de la souffrance, mais on sait qu'on ne désespère pas. Pour que, et cette espérance, elle est réservée où? Dans les cieux. Dans les cieux. Alors, est-ce que vous connaissez l'espérance qui vous est réservée dans les cieux? Est-ce que vous savez ce qui vous est réservé là-haut? Ce serait le moment de le savoir, pour que vous ayez un peu plus de joie qu'à écouter des nouvelles de la radio et les visions de la télévision. Parce que c'est pas encourageant. Du tout, du tout. Alors on comprend qu'il y a de la dépression. On comprend qu'on soit toujours dans le stress. Et il faut absolument avoir son poste branché sur le ciel. Hein. Il y a une espérance dans les cieux pour vous. Et il faut la connaître. Et qu'est-ce qui nous l'a fait connaître? C'est la parole de la vérité. Et où est-ce que vous la trouvez, la parole de la vérité? Dans l'évangile. C'est l'évangile. Et qu'est-ce que vous présente l'évangile? Qui est l'objet de l'évangile? C'est Jésus, qui doit devenir notre trésor. C'est Jésus. Et alors, on connaît maintenant certains faits qui nous donnent alors foi, espérance et amour. Mais comment vient la foi? Il y a des gens qui vous disent, oh, moi j'aimerais bien avoir la foi. Quelle est la réponse que vous vous donnez par les Écritures? Parce que Jésus répondait toujours aux questions par les Écritures. Qu'est-ce qu'il a dit dans les Écritures? Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il voudrait bien avoir la foi, bien, conseillez-lui de lire l'Écriture. Hein? Ramenez-le à l'Écriture. N'essayez pas de le convaincre avec des arguments. Ça ne marchera pas. Mais dites-lui, lis la Bible. Oh, il faut avoir fait des études pour lire la Bible. Si vous saviez. Mais souvenez-vous de Jésus qui dit, je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Si les gens pouvaient lire la Bible avec un cœur d'enfant, ils la comprendraient. Hein? Ayez un cœur d'enfant, soyez sainte. Appelez les choses par leur nom, ne cherchez pas midi à 14h. Puis ne pensez pas que quand vous serez théologien, vous pourrez lire la Bible. Parce que je crains beaucoup que si vous faites maintenant des études de théologie dans certaines écoles, je ne parle pas de toutes les écoles, heureusement, hein, vous découragiez les âmes à lire la Bible. Quand on voit ce qu'on écrit au sujet de l'Écriture, c'est tellement réjouissant que maintenant vous puissiez lire la Bible, hein, au Québec, où c'était plus ou moins interdit. Hein. Maintenant vous pouvez la lire. Mais il y a des cours de Bible qui se font pour la discréditer. Maintenant que le livre est ouvert, on discrédite la Bible, on lui enlève l'autorité. Ou ne, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Elle contient peut-être la parole de Dieu, mais il faut avoir fait des études pour savoir ce qui est parole de Dieu, ce qui n'est pas parole de Dieu. Et pourtant, moi je suis un amoureux de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, elle ne me donne pas des doctrines. Elle me montre des hommes qui ont vécu certaines circonstances. Et je suis enseigné par ces hommes. Elle me montre leur qualité, mais aussi leur faute. Alors on n'est jamais découragé quand on lit la vie de ces hommes de la Bible. Parce qu'on voit qu'ils avaient les mêmes faiblesses que nous autres, et qu'ils pouvaient tomber même dans des graves péchés, mais que Dieu ne les a pas laissés. Il n'a résisté qu'aux orgueilleux, mais à ceux qui ont reconnu leur faute, aux humbles, il les a relevés. Et c'est cela, vous lisez la Bible, vous dites, mais enfin ces histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces patriarches, on est si loin d'eux. On n'est pas si loin d'eux. Pour moi, il nous entoure. Il forme, c'est une grande nuée de témoins qui nous entourent. Et ils nous enseignent par leur vie. Et on sait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Parce qu'eux les ont fait. Et ça nous est écrit pour que nous, nous ne les fassions pas. Alors que l'autre jour, encore une dame me disait, mais vous savez, je me suis mis à lire la Bible, mais j'en ai des frissons, mes cheveux se hérissent sur ma tête. Tiens, c'est samedi qu'on m'a dit ça. Une dame qui vient de l'église mère, hein, qui m'a dit, mais maintenant que je commence à lire la Bible, mes cheveux se hérissent sur ma tête. J'ai dit, Dieu soit béni. C'est fait pour vous hérisser, évidemment. Tandis que quand on va au cinéma, hein, eh bien le péché, ça passe. Hein. On vous fait aimer le péché. Le monde, il vous montre le péché sous des fleurs. Tandis que la Bible, ça vous scandalise. C'est pour ça que c'est un livre très saint. Comprenez-vous? Parce que ça dénonce le péché. Et ça vous donne l'horreur. Mais comment? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont pu se passer? Les filles de Lot qui couchent avec leur père, etc. Ça ne se passe pas? Ces viols constamment par des parents sur leurs enfants? Vous avez ça dans les journaux presque tous les jours. Mais maintenant, on admet tout. La parole de Dieu me donne des réactions. C'est un livre saint. Il n'y a pas de tabou dans la Bible. Mais tout est saint. La parole de Dieu, elle appelle les choses par leur nom. Et nous devons aussi appeler les choses par leur nom. Et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Alors, cette foi, cette espérance et cet amour sont en activité. Donc, la foi, elle vient de la parole de Dieu. Donc, encouragez les gens à lire la parole de Dieu. Et vous verrez les choses merveilleuses. La parole de Dieu suffit, il n'y a pas besoin d'un interprète. Le Seigneur se fera connaître à eux par son esprit. Et puis, si la foi vient de la lecture de la parole de Dieu, d'où vient l'espérance qui est réservée dans les cieux? Mais dans la pratique, hein, comment est-ce que nous pouvons devenir des hommes d'espérance? Quelle est la réponse biblique? Chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Étant justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu, et nous avons trouvé accès à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous avons des épreuves. Parce que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Alors vous voyez d'où vient l'espérance? Vous avez des épreuves? C'est pas pour vous désespérer. C'est pour vous donner une espérance sûre et ferme, une espérance qui ne trompe pas. C'est ce que je lis dans Romains 5. Hein. Une espérance qui ne confond pas, qui ne trompe pas. Pour quelle raison? Parce que l'amour de Dieu est versé dans vos cœurs. Alors, d'où vient l'amour de Dieu? Qui est amour. Dieu est amour. Vous n'allez pas dire que c'est les enseignements de Gaston Racine, hein? Finissez-en avec moi. Mais comprenez que c'est les enseignements de la parole de Dieu que nous ambitionnons de vous faire aimer. pour que vous soyez des hommes et des femmes pouvant apporter un témoignage dans ce monde. Alors, Paul, je trouve ça merveilleux, il n'est pas allé à Colosse, mais pourtant, il est intéressé par ce qui se passe à Colosse, il est ouvert et il prie pour eux parce qu'il a entendu dire du bien de ces gens-là. Il a entendu dire du bien de cette église. Quand vous entendez dire du bien d'une église, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Vous devriez avoir la joie, hein? Des fois on est jaloux. Non, mais réjouissez-vous, au moins qu'il y ait une église qui marche. Si elle marche. Parce qu'on peut aussi s'illusionner, hein. Mais vous voyez, verset 6, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Quoi qui est au milieu de vous? L'évangile, hein. Et il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui vous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, je pense que c'est cela. Vous comprenez ce que ça veut dire méditer la parole, entrer en oraison sur la parole de Dieu. On relit ces textes. Alors, je pense, l'évangile, donc, dit Paul, il est au milieu de vous, et puis il progresse, il y a des fruits. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans nos églises? On ne nous parle que d'efforts, de quoi? D'évangélisation. Hein? Alors, il faut faire des efforts. On se prépare pour des grands efforts d'évangélisation. Est-ce que vous trouvez ça dans l'Écriture? L'Évangile progresse, n'est-ce pas? C'est un courant d'eau, c'est un fleuve qui avance. C'est pas le produit de nos organisations, de nos méthodes qui vont sauver les âmes. C'est d'avoir un témoignage. C'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient témoins du Christ, qui aient cette foi, cette espérance et cet amour, qui le vivent dans leur foyer, dans leur famille, leurs enfants les voient heureux en Jésus. Les enfants savent que le trésor de papa et de maman, c'est compte en banque? D'abord. Non, c'est le Seigneur. On peut avoir de l'argent, c'est pas un crime. Mais on n'y est pas attaché. Et on tâche de s'en servir pour le bien. Parce que tout appartient à notre Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi? Te glorifies-tu? Alors Dieu vous donne certaines possibilités dans le Seigneur. Et alors c'est comme ça que, au lieu de parler toujours d'efforts, où on se tue pendant 15 jours, on se prépare pendant des mois peut-être, puis après 15 jours, puis après, c'est plat. Hein? On a fait quelque chose pour le Seigneur. Mais c'est tous les jours. Une vie cachée. Comprenez-vous un peu? Une vie cachée dans le Christ. En Dieu. Vous demeurez en Christ, là où est votre trésor. Alors, il y a des nouvelles. Et alors, quand on a reçu de bonnes nouvelles d'une église, qu'est-ce que l'on fait? C'était un peu la deuxième question. On dit, oh ben pour ceux-là, même temps, j'ai plus besoin de prier. Ils y sont. Ils sont arrivés. Non, personne n'est arrivé. On court. Hein. C'est justement quand on a reçu de bonnes nouvelles d'une âme, il faut commencer à prier davantage pour cette âme. Parce que si elle a progressé, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le diable, pour essayer de la démolir, afin qu'après avoir eu de bonnes nouvelles de quelqu'un, vous entendiez qu'il y a une catastrophe. Et puis voilà, on ne priait plus pour ces âmes-là. On pensait, ouais, elles sont arrivées. Puis après, on apprend qu'elles se sont éloignées. Eh bien, c'est pour cela, justement, quand on a de bonnes nouvelles, verset 9, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut prier. Depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alors vous dites, alors il ne fait plus que ça? Mais c'est une vie de prière, vous comprenez? Alors, tout à coup, on a une pensée pour ces gens-là. C'est ça la prière. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Mais c'est justement, quand il y a déjà un bon témoignage, il faut que... Quelle est la plénitude que nous devons avoir? La connaissance de sa volonté. Parce que, vous voyez, on entend constamment les gens nous dire « Oh, mais c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. » Est-ce que c'est ça la Bible? Non. Vous devez être rempli de cette connaissance. Vous devriez savoir ce que Dieu veut de vous, ce que Dieu veut pour vous. Vous devriez devenir des spécialistes de la volonté de Dieu, d'abord pour vous-même, puis aussi pour votre famille et pour ceux que vous aurez peut-être à conseiller. Voilà une chose dont nous devons être remplis. Vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Je suis obligé d'aller un peu plus vite parce qu'on pourrait s'arrêter sur tous les mots. Hein. Par exemple, Epaphras, vous le connaissiez? Vous connaissiez Paul, hein? Mais Epaphras, qui c'est Epaphras? Et pourtant, vous connaissez les noms de joueurs de hockey. C'est vrai ou c'est faux? Vous connaissez Marilyn Monroe. Vous connaissez toutes les stars du monde. Vous êtes des chrétiens, oui, mais je vous dis pas de ne pas les connaître, c'est pas ça. Mais enfin, est-ce que ça vous arrête tellement? Une Marilyn qui mettait 8 heures pour se faire le visage, pour dire, pour être Marilyn, il me faut 8 heures de travail devant mon miroir. Chaque jour. C'est ça. Mais on connaît ces noms-là. Hein. On a même leurs portraits. Vos idoles dans le sport. Oui, j'ai rien contre le sport. L'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, parce qu'elle a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Et vous devez quand même penser aussi à cette vie à venir. On n'aurait pas froid. Mais pas froid. Je sais pas qui c'est. Mais c'est un homme qui a été à l'origine d'une église, l'église de Colosse, d'après ce qu'on voit, et qui a été fidèle. Et Paul peut rendre un témoignage extraordinaire. Vous voyez qu'il n'est pas jaloux d'un autre serviteur. Hein. Epaphras, qui est un fidèle serviteur, ministre du Christ, qui est son compagnon de service, je suis revenu un peu en arrière, hein. Voilà. Mais on est surpris de l'ignorance que nous trouvons chez beaucoup de personnes. Je crois l'avoir dit une fois ici. On parlait d'Amos dans un groupe. Il dit, ah oui, dans l'Abitibi. bien sûr, il y a un Amos dans l'Abitibi. Mais l'Amos de la Bible, il est où? Vous voyez qu'on peut rire dans une étude biblique. Il faut aussi se détendre. Mais voilà des noms. Epaphras, c'est un homme qui a servi le Seigneur, qui était à l'origine d'une église vivante. Et alors, Paul prie maintenant pour ces gens-là qui ont été enseignés par Epaphras, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il y a tellement de gens chrétiens qui ne sont pas sages ni intelligents. Oh, ils se croient intelligents, ils ont tous les titres possibles, mais ils font des bêtises. Ils renouvellent les bêtises. Même des choses que les gens du monde ne font pas. Alors, on a besoin, parce qu'on a un témoignage. Vous êtes liés au Christ. La vie que vous avez doit manifester celle du Christ. Dans le Christ, il était vivable avec tout le monde. Même les prostituées et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Il ne repoussait personne. Puis on disait de lui, c'est un mangeur, un buveur, l'ami des publicains et des pécheurs. Parce qu'il acceptait certaines invitations. Mais qu'est-ce qu'il restait? Il restait lui-même. Il ne roulait pas sous la table parce qu'il avait trop mangé ou trop bu. Mais il était un exemple. Et vous pouvez avoir un témoignage, être des exemples sans moraliser. Finissez-en avec ces idées de toujours vouloir moraliser ou convertir absolument la personne. Soyez vous-même en Christ, caché en Christ. Ça parlera. Même votre silence parlera. n'employez pas le nom du Seigneur en vain. C'est pas mettre le nom de Jésus à toutes les sauces qui comptent. C'est de vivre Jésus. Une vie cachée. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Voyez-vous, c'est votre marche, c'est à cela. Oh, maintenant, n'est-ce pas, on fait des marches. Et on vous enrôle dans des marches. Vous êtes avec n'importe qui, des gens qui n'ont pas vraiment un témoignage, mais qui sont emballés pour une doctrine qui est peut-être biblique. Puis alors on veut que vous marchiez avec eux dans les rues. Vous avez un écriteau. Mais l'écriteau, qu'est-ce que c'est? Alors si vous n'êtes pas là-dedans, on vous déconsidère. Vous n'êtes pas un bon chrétien. Qu'est-ce que c'est un bon chrétien? Comment? Une variété de poire. Voilà, c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. Hein. C'est lui qui a dit ça. Hein, c'est dans le dictionnaire. Une variété de poire, oui. Un bon chrétien. Car quand on a dit à Jésus, bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Un seul est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Alors, soyons enseignés par Jésus, puisqu'on est à l'école de Jésus. Hein. Alors, il est question d'une marche, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Quand on connaît les faits bibliques, on doit marcher selon ces faits qu'on croit. Ces faits qui ne peuvent pas être des faits. C'est des faits qui sont réels. C'est pas un rêve. Mais que nous marchions alors pour lui être entièrement agréable. À moitié agréable? Non, entièrement agréable. Portant des fruits en toute bonne œuvre. Or, les fruits, c'est le travail d'un effort? Non, c'est quoi? C'est le produit de quoi? De la vie. Le fruit, c'est le produit de la vie. Alors, vous avez la vie et il y a des fruits. C'est plus votre effort. Hein. C'est ça qui est merveilleux. Vous avez la vie. Alors, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que le Seigneur place quotidiennement sur votre chemin, elles peuvent être très différentes. Une fois, c'est ceci, une fois, c'est cela. Il n'y a pas une qualité de bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Elles sont là. On n'a pas besoin de les chercher. Pour toutes sortes de bonnes œuvres, mais il faut avoir été préparé. Et comme je vous l'ai dit, pour être préparé pour les bonnes œuvres, il faut avoir passé par certaines souffrances. Et croissons par quoi? Par quoi est-ce qu'on croit? Par la connaissance de Dieu. Mais vous dites, mais Dieu, je le connais. Oui, mais j'ai besoin encore de le connaître parce que c'est l'être infini. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Alors là, ça répondait un peu à cette... Est-ce qu'il y avait une question là-dessus? La deuxième. Que devons-nous demander pour une âme quand nous avons reçu de bonnes nouvelles de sa foi? Bien, vous voyez ce que nous pouvons demander. Alors, passons plus loin. Verset 12. Rendez grâce. C'est le temps de l'action de grâce, hein? Eh bien, rendez grâce au Père. Vous voyez, c'est toujours le Père. Dieu est connu comme un Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Vous voyez, ne dites plus que vous êtes incapable. Hein? Pas capable, pas capable. Hein? J'ai entendu si souvent ça. Pas capable, pas capable au Québec. Mais non! Oui, pas capable par moi. Mais par lui, nous sommes rendus capable, mais il faut le connaître. Il faut avoir un bon papa. Et c'est cela, Abba, Père, ça veut dire, au fond, papa. Hein. On peut être intime avec Dieu comme un enfant avec son papa. C'est pas le Dieu terrible, le Dieu vengeur qui va vous frapper, c'est le Dieu qui vous prend par la main parce que vous êtes ses enfants et qui veut que vous vous jetiez dans ses bras, sur son cœur. Le plus près, quand un père retrouve son enfant, il le serre sur son cœur. Mais voilà votre Dieu, voilà le Père que vous connaissez, voilà le Dieu qui règne au-dessus de tout. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous saviez que vous avez un héritage? Qu'il n'y aura pas de codicille? un héritage qui est conservé où? Dans les cieux. Mais alors, il faudra un petit peu y entrer pour voir ce qui nous attend. C'est toujours dans les cieux. Hein. L'espérance, elle est dans les cieux. Et puis, l'héritage, il est réservé aux saints. La part de l'héritage des saints dans la lumière. Une lumière complète. Une lumière totale. Qui est la lumière? C'est Jésus. Alors, quand on est avec lui, on est dans la lumière. Et alors, il nous a délivrés de quoi? De tout ce que nous avons vu dans la précédente session de février, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui est le prince des ténèbres? C'est Satan. Alors, est-ce qu'il doit nous délivrer ou est-ce que nous sommes délivrés? Nous devons prendre la victoire. Vous êtes des délivrés. Alors, on vous parle tout le temps de ministère de délivrance. Bon, ben, très bien. Mais vous êtes déjà délivrés. Prenez la victoire. Considérez ça comme un fait. Croyez-le. Et vous marcherez dans la délivrance. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. C'est merveilleux, hein? On parle beaucoup de transport. Via rail. Transport! Mais quel transport? Transporté par la puissance de Dieu. Dans quel royaume le Fils de son amour? Est-ce que vous vous êtes laissé transporter? Est-ce que vous êtes déjà transporté? C'est fait. Alors, où êtes-vous? Dans le royaume du Fils de son amour. Eh bien, j'espère que ça ne sera plus des simples mots, hein, de la littérature paulinienne, ça. Mais que le royaume du Fils de son amour, ça vous dira quelque chose. Voilà où je suis. Simplement, je suis au Québec, ou bien je suis en Suisse quelquefois, je suis en France, je suis en Europe, je suis en Asie. Je suis dans le royaume du Fils de son amour. Et ça, j'en ai eu la révélation au Vietnam, quand c'était encore la guerre, hein. Et que l'avion atterrit, puis tout à coup, je dois être un mois prêché là au Vietnam, et puis le missionnaire qui me recevait pour m'accompagner me disait, tu sais, on risque d'avoir des Vietcong avec les coupes-coupes qui sortent de la forêt, et puis bon, on risque d'avoir la tête coupée. Il y en a d'autres qui l'ont eu avant nous, hein. Paul, et puis, qui? Jean-Baptiste, puis Pierre. Non, Pierre, il était crucifié, bon. Enfin, peu importe. Mais, enfin, tout d'un coup, je me suis dit, parce que c'est vrai, hein, je venais d'un pays en paix, puis tout à coup, on est dans un pays en guerre, puis il faut travailler, là, puis on devait faire des heures dans la nuit, puis tout d'un coup, mais je suis dans le royaume de mon père, hein, au Vietnam, je suis chez moi autant qu'ailleurs. À qui appartient la terre? Toute la terre est à l'Éternel. Alors, je suis chez mon père, où que vous vous trouviez. Alors, il nous enlève la crainte, il nous enlève la peur. Parce que sans ça, je ne peux pas parler de paix aux gens. N'est-ce pas? Il faut que cela devienne réalité pour nous, dans notre expérience et dans nos sentiments, puisqu'on parle des faits et des sentiments. Mais c'est à cause des faits qu'on peut avoir ce sentiment de paix. Comprenez-vous? Ce n'est pas à cause des circonstances. Parce que si vous regardez aux circonstances, vous n'avez pas la paix. Mais si vous regardez au fait, vous restez dans la paix. Et vous avez des actions de grâce. Il nous a délivrés, alors vous voyez de quoi il nous a délivrés, de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Est-ce que vous avez le pardon de vos péchés? Est-ce que vous savez que vous êtes racheté? Alors, quel prix le Seigneur a payé pour votre achat? Sa vie, son sang, hein. Alors, vous croyez qu'il va vous abandonner? Malgré tout ce que vous pouvez encore voir en vous de faiblesse et de misère, eh bien, vous êtes sûr de son œuvre. Hein. C'est fait. Et vous avez en lui la rédemption, la rémission des péchés. Parce que lui a payé votre dette complètement. Alors, qu'est-il, ce Seigneur? Alors, j'ai mis cette question. Qu'est-ce que Jésus est pour Dieu? Il est l'image du Dieu invisible. Donc, si vous voulez connaître Dieu, il faut regarder le Seigneur. Il faut regarder le Fils. C'est lui qui nous révèle le Fils. Il n'y a pas de réelle et complète connaissance de Dieu en dehors de la connaissance du Fils. Regardez Jésus, et il est l'image du Dieu invisible. C'est lui, à lui que vous devez regarder. Et vous commencerez à lui ressembler. Il ne faut pas regarder aux hommes, pas même aux chrétiens. C'est à Jésus qu'il faut regarder d'abord. Le monde doit regarder aux chrétiens, peut regarder aux chrétiens. Mais nous, nous n'avons pas à regarder aux chrétiens, à chercher des modèles chez les chrétiens. Parce qu'ils vont vous décevoir. Timmy Baker et compagnie. Hein. Bon, alors, oui, les hommes déçoivent. Hein. On met la confiance dans l'homme, on les aime, enfin, ce sont des grands hommes, des serviteurs de Dieu, tout ça. Puis, paf. Parce qu'on n'a pas su ce que c'était que la chair. Et la faiblesse de la chair. Même David est tombé. Hein. Le doux psalmiste d'Israël. Et il faut des expériences, des fois cuisantes et douloureuses, pour réaliser ce qu'est la chair et ce qu'elle serait capable de faire. Alors, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. C'est lui qui est le modèle. Premier-né, c'est un titre qui est donné au Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il a eu un commencement. Il est Dieu lui-même, mais c'est un titre de noblesse. Car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est pour ça que Dieu disait que tout était bon, hein, puisque c'est en Jésus qu'ont été créées toutes choses, avant son incarnation. C'est dans le Fils que toutes choses ont été créées. Les visibles, vous les connaissez, et les invisibles, elles sont où? Dans le ciel. Hein. Et trône, dignité, domination, autorité, tout cela, on aura encore l'occasion d'en parler. Ce sont toutes ces puissances célestes, les anges, que ce soit les anges fidèles à Dieu, qui sont serviteurs. Il y a une hiérarchie céleste, mais on ne va pas entrer là-dedans. Mais c'est des choses qui sont passionnantes. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, dites-vous cela, quelles que soient les circonstances, tout a été créé par lui et pour lui. Lui est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Qu'est-ce qui fait subsister toute chose? C'est le Seigneur. Lisez Hébreux chapitre 1 et vous aurez la compréhension. Et qu'est-ce qu'il est alors? Il est pour Dieu l'image de Dieu et pour l'univers, qu'est-ce qu'il est? Le Créateur. Et le conservateur de tout. Hein? Le monde ne peut pas finir n'importe comment. C'est le Seigneur qui conserve. Et qui dit jusque-là, mais pas plus loin. Hein? Alors, on est en relation donc avec ce Jésus qui est l'image du Dieu invisible, le créateur de l'univers, tout a été créé pour lui. Et puis pour l'Église, qu'est-ce qu'il est? Il est le chef, il est la tête, n'est-ce pas? Il est la tête du corps de l'Église. Donc l'Église est un corps dont chaque croyant est un membre. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Pour nous montrer que même si nous devons mourir avant son retour, nous aussi, nous serons ressuscités. Il y a un premier-né. C'est qui? C'est Jésus. Et comme lui a été ressuscité, nous serons ressuscités. Si nous devons passer par la mort. La mort ne pourra pas nous garder, ou garder même nos corps. Nous ressusciterons. Il est le premier-né. Et il y en a d'autres après lui. Hein, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Une autre version dit, afin qu'il occupe en tout la première place. Alors vous pourriez vous demander, quelle place occupe-t-il dans mon cœur? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car Dieu a voulu, verset 19, hein, que toute plénitude habitât en lui. Où cherchez-vous la plénitude? Elle est où la plénitude? Elle est en Jésus. Alors, si vous avez Jésus, qu'est-ce que vous avez en vous? La plénitude. Mais laissez-le libre. Laissez-le répandre sa plénitude en vous. Ce n'est pas des choses de l'extérieur que vous avez besoin. C'est de faire un déblayage. Il y a, hein, certaines choses doivent s'en aller pour que le Seigneur ait toute la place. Hein. Qu'il ait la première place, qu'il soit en tout le premier. Est-ce qu'il est en tout le premier dans ma vie? Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors là, il y avait la question 5, par quel fait notre réconciliation avec Dieu a-t-elle eu lieu? Par quel fait? La croix. Et alors ça, on aura l'occasion d'y revenir. C'est par la croix. Une folie pour le monde. Dire que tout est réconcilié par la croix, mais la croix, c'est un échec. C'est un scandale pour les Juifs. Maudit quiconque est pendu au bois, puis il faut prêcher ça. C'est par lui, par la croix, justement quand il est sans forme sur la croix, qu'on peut être sauvé. Mais pourquoi est-il là? À cause de nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et après la mort, c'est le jugement. Et le jugement, c'est un jugement éternel. Il a voulu nous en délivrer. Alors il a subi la mort. Il a subi la condamnation. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a subi la damnation pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Vous ne pouvez pas être abandonnés parce que lui a été abandonné pour vous. Et vous qui étiez autrefois, vous voyez, il y a un autrefois dans nos vies, verset 21, vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Lui-même, Paul, quand il écrit cela, qu'est-ce qu'il raconte? C'est son témoignage, n'est-ce pas, en quelque sorte. Voilà ce que j'étais, au fond. Il était ennemi dans ses pensées et par ses mauvais œuvres. Vous voyez que les pensées, la compte, nos pensées, on était ennemis dans nos pensées, puis par nos œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort, dans le corps de sa chair. Pourquoi est-ce qu'il a pris un corps de chair? Pour pouvoir mourir. Et c'est donc sa mort qu'il nous a réconciliés, pour vous faire paraître devant lui, comment? Saint, irrépréhensible et sans reproche. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Pour nous faire paraître devant Dieu, ce Dieu dont nous avons parlé ce matin, devant sa face, tout est majesté et splendeur. Alors, si vous êtes devant sa face où tout est majesté et splendeur, et où il est dit que la force et la joie habitent, là où il se trouve, dans sa demeure, eh bien vous êtes déjà dans sa demeure, vu par Dieu, comment? À cause du Christ. Comment est-ce que Dieu vous voit? Irrépréhensible et sans reproche. Mais comment vous regardez, vous dites, mais c'est pas possible. Non, selon vous. Mais aux yeux de Dieu, et c'est Dieu qui dit la vérité, c'est comme ça qu'il vous voit, si vous avez reçu Christ. Mais il faut comprendre alors le prix de cette grâce. Et quand on commence à comprendre ça, qu'est-ce qui arrive dans notre cœur pour Jésus? Quelqu'un tout d'un coup dont on découvre le dévouement, dont on découvre l'amour, dont on découvre qu'il est à l'origine de tout ce qu'on a de bien, qu'est-ce qui arrive? On aime. Comprenez-vous? Mais pour cela, il faut qu'on découvre de quoi il nous a sauvés. Je ne suis pas un petit pécheur. Je suis un grand pécheur. Paul disait, je suis le premier des pécheurs. Et pourtant, c'était un homme religieux. Alors ne vous découragez pas, ne vous regardez pas vous-même. Le Seigneur vous a réconcilié pour vous rendre saint et irrépréhensible et sans reproche. Si du moins, alors il y a un si, oui, vous demeurez fondé et inébranlable. Et c'est cela le but de ces retraites, de vous donner une fondation. Et que votre foi soit inébranlable, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, parce que nous ne sommes sauvés qu'en espérance. C'est cela que nous espérons. Un jour, ça sera comme cela. De l'Évangile que vous avez entendu sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Lui qui était le persécuteur des chrétiens, Dieu en avait fait son ministre. Alors il dit, verset 24 à la suivante, et suivant, « Je me réjouis maintenant dans les souffrances. » Est-ce que vous pouvez dire cela? Bien, c'est à cela que le Seigneur veut nous amener, pour vous. Et ce qui manque aux souffrances du Christ, ce n'est pas des souffrances expiatoires qu'il y a, mais il faut que le corps soit comme la tête. et que pour que chaque membre du corps devienne comme la tête, il faut tout un travail. Eh bien, l'apôtre Paul travaillait à cela. Et en travaillant à ce que les autres deviennent semblables à Christ, eh bien, ces souffrances-là qu'il avait, c'était des souffrances qu'il avait pour le Christ. Ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps. Ce n'est pas des souffrances expiatoires. Il a tout expié, il ne manque rien aux souffrances expiatoires du Christ. Mais le Christ veut que son corps soit comme lui, que les membres de son corps soient comme lui. Alors Paul travaillait à cela. C'était cela son travail. De sorte que les souffrances que Paul avait, c'était les souffrances du Christ. Vos souffrances doivent devenir les souffrances du Christ, puisque vous avez la vie du Christ. Mais vous ne devez pas souffrir comme ivrogne, comme voleur, comme des gens qui font le mal. Vos souffrances devraient être des souffrances pour le Christ. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, donc de l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Vous voyez, il faut pas, c'est pas d'un petit salut, comme nous aurons l'occasion de le voir, qu'il est question, hein, mais il faut que vous receviez pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, donc il faut le connaître ce mystère, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ en vous doit déjà être pour vous l'espérance de la gloire. Le Christ ne doit pas être à côté de vous, le Christ ne doit pas être au fond du ciel, le Christ doit être dans vos cœurs. Il ne faut pas seulement lire sur les pierres tombales, il est au ciel et dans nos cœurs, parlant d'un disparu. Hein. Je ne sais pas si ça existe au Québec, ça. Je visite quelquefois les cimetières, mais en tout cas, en Europe, j'ai vu souvent ça, il est au ciel et dans nos cœurs. Enfin, des paroles de la famille. Puis bien souvent, on est oublié depuis longtemps. Mais sur la pierre, il est dit ça. Mais le Seigneur est au ciel, oui, mais il est aussi dans nos cœurs, ça c'est vrai. C'est lui que nous vous annonçons, que nous annonçons à tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà le but d'un ministère. Voilà comment on aime les âmes. Chercher à les amener à être un jour parfait devant le Christ. Et Paul dit, c'est à cela que je travaille, combattant avec ma force. C'est ça? Avec sa force. Hein? La force et la joie sont dans le lieu où il habite. Hein? Combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Si vous êtes donné au Seigneur, le Seigneur pourra agir avec sa force puissamment en vous. Or, Dieu peut, par la puissance qui est en vous et qui vient de Dieu, faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez espérer et penser. À lui soit la gloire en Jésus-Christ. Béni sois-tu pour cette heure. Et maintenant, tu veux t'occuper de nos corps. Nous allons nous rendre à la cafétéria pour ce repas. Nous te bénissons de prendre soin de nous et nous te demandons de nous détendre et de nous préparer pour l'heure qui suivra. Dans ton amour. Amen. Alors, à 14h, on se retrouve.